Donc Luc Pire, éditeur, vous le savez, va vous présenter Elio Di Rupo, jeune premier qui essaye de percer dans notre jungle politique.
Voilà, merci Marc Philipson. Je fais comme Marc, je me permets simplement de vous dire merci d'être présent. Merci aussi à Elio Di Rupo de faire confiance à la maison d'édition. Vous savez que depuis maintenant une dizaine d'années, on essaie d'être un lieu et un espace de débat démocratique. Et on tient le coup, c'est déjà pas mal. Et surtout, on a la confiance d'hommes politiques qui ont envie d'utiliser le média, qui est pour moi le média le plus noble, et c'est pas des gens qui fréquentent Filigrane que je vais le lire, qui est le livre, parce que c'est dans le livre qu'on a le temps de s'expliquer. Le livre oblige pour l'écrire à marquer un temps d'arrêt. C'est difficile pour un homme politique, mais il a choisi de s'arrêter, de réfléchir et d'écrire. Et je crois, en le lisant, parce que je l'ai évidemment relu hier soir pour le présenter, que c'est un livre un peu prémonitoire. Et que commercialement, si j'avais su, j'aurais proposé à l'auteur de mettre le chapitre 2 en chapitre 1 et de mettre le titre du chapitre 2 en titre du livre, mais qu'on a réfléchi à ce livre il y a plus de 2 mois, c'est non au capitalisme débridé et oui à l'économie de marché régulée. Je pense que tout le monde se pose beaucoup de questions. Et la grande question pour laquelle je vais vous laisser répondre et faire votre présentation de livre, c'est, je crois que tous les citoyens se demandent, que peut-on faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut peser? Un des chapitres du livre, c'est, oui, le politique peut agir. On se pose vraiment des questions. Et moi, l'autre question que je me pose comme citoyen, c'est, quand on parle de ces milliers de milliards, je me demande d'où ils viennent. Et où va-t-on les chercher pour sauver les banques? Donc, je crois qu'il y a des questions élémentaires qu'on se pose tous. On n'a pas les réponses. On espère que vous les avez. Et on aimerait bien avoir quelques réponses.
D'abord, remercier Marc. Et si j'avais su qu'un jour, j'allais me trouver chez lui autrement qu'en fouillant pour une revue ou pour un livre, je ne l'aurais pas cru. Alors, mettons les choses au point. Ce n'est pas un livre que j'ai rédigé. C'est un manifeste qui a pris la forme d'un petit livret. Manifeste que j'ai rédigé avec le concours de quelques amis. Et c'est un manifeste relativement court où on a beaucoup travaillé les concepts et c'est un peu rébarbatif à lire parce que c'est très condensé et ce sont les grandes lignes directrices de ce que je pense on doit faire et être quand on est socialiste en 2008. Et pour éviter d'être lyrique ou d'aller dans des considérations que l'on peut avoir tout naturellement et au départ de cela, l'idéal serait maintenant d'avoir un document un peu plus fouillé, mais aussi avec des concepts qui peuvent être un peu plus lâches, un peu plus généraux. Ici, on a voulu concentrer notre propos sur ce qui nous semblait un certain nombre d'éléments essentiels. Et je voulais répondre à une question que tout le monde se posait. Le PS s'est trouvé en mauvaise posture le 10 juin. Les socialistes en Europe, bon, il y en a très brillants comme Zapatero. Il y en a qui aujourd'hui formulent des propositions originales comme Gordon Brown. Mais on ne peut pas dire que nous brillons de mille feux. On a une petite flamme, voire deux petites flammes, voire trois petites flammes qu'il faut absolument démultiplier. Et dans notre pays, en plus avec le SPA dans l'opposition, nous dans la majorité, il y a bien sûr confusion. Et on m'avait demandé, mais est-ce que tu ne devrais pas rédiger quelques lignes pour nous repositionner sur le plan philosophique? Et le manifeste n'a d'autres prétentions que celle-là, c'est-à-dire un positionnement qui est très clairement sur l'échiquier politique à gauche. Je crois que le positionnement de philosophie politique doit être, pour ma part, très à gauche, parce que la tendance naturelle de l'économie, soutenue d'ailleurs par bon nombre de responsables de droite, bien tout ça va ou vont vers le centre, voire le centre droit, et que tout naturellement, si on laisse aller la société, ça va vers la droite, et parfois jusque la droite extrême. Et donc avoir un référentiel philosophique, politique très ancré à gauche, ça ne garantit pas que c'est de la politique de la gauche réaffirmée, mais en tout cas ça endigue et ça freine ce mouvement tout naturel de ce mouvement sociétal, économique, politique qui va vers le centre et vers la droite. Et donc, on avait rédigé cela. Au début, on nous avait traité un peu de fous, enfin, parce que parler de socialisme, c'était ringard. C'était hors propos. On n'avait rien compris à rien. Bon, moi, j'ai toujours cru le contraire, mais on avait du mal à se faire entendre. Et puis, voilà, patatras. Nous, on a rédigé tout ce que vous pouvez lire bien avant qu'on ne connaisse ce que vous connaissez. Et c'est un sentiment profond, je veux dire, cette acceptation de l'économie de marché régulée, ce rejet du capitalisme financier débridé. On peut sur ces concepts vraiment parler des heures et des heures et écrire des bibliothèques. Mais on voulait le redire parce que, bien sûr, la droite, d'une manière générale, rêve de nous ringardiser, de faire croire qu'on est hors champ du réel. Or, c'est tout à fait le contraire, parce que le réel, il est pénible pour la grande majorité des gens. Je ne parle pas uniquement des gens à revenus faibles, mais même la classe moyenne, c'est terrible. Et oserais-je dire que ces 25-30 années, on a créé même chez les gens aisés un stress humainement insupportable. Et on rend les gens fous, comme si devoir vivre dans un monde de cette nature faisait partie du naturel humain et du genre humain. On peut franchement être performant, brillant, développer des talents, encourager l'effort et en même temps assister celles et ceux qui éprouvent des difficultés sans devoir vivre dans ce modèle qu'on nous impose pour le moment, qui est insoutenable. Et le modèle insoutenable l'a été d'abord par l'idéologie libérale, avec des réponses, comment dirais-je, totalement irréfléchies, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de réflexe de Pavlov. Quand on disait ben, est-ce qu'on ne peut pas encadrer, réguler, etc., on apparaissait vraiment comme des gens hors champ et il fallait laisser faire et l'autorégulation allait tout régler. Bon, voilà. Sans entrer dans le détail, on voit aujourd'hui, selon moi, et ce n'est pas du tout un ajustement d'un système, il y a eu en fait 18 crises financières depuis 71 et nous en sommes à la 19e. Mais celle-ci touche de plein fouet les gens d'une manière massive et je pense que c'est la goutte, ou en tout cas c'est la crise de trop qui va faire changer les comportements. Mais la droite essaye de se ressaisir, ils ont beaucoup d'argent, ils vont utiliser bon nombre de professeurs d'université, ils vont utiliser bon nombre de think tanks, ils vont utiliser les médias qui sont quand même majoritairement de caractère privé pour essayer d'expliquer que finalement tout ce qui se passe c'est un peu comme quand on purge un radiateur. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi j'ai des vieux radiateurs et quand il y a du bruit et que ça ne chauffe pas, eh bien, on purge, et une fois que la vapeur s'échappe, l'eau chaude arrive, et on peut revivre quelques mois avec les radiateurs qui fonctionnent. Beaucoup disent ce n'est qu'un ajustement de l'offre, c'est une purge normale dans le monde économique qui marche bien. Moi, je ne crois pas du tout que le monde marche bien. Je crois même le contraire. Je pense qu'on a un bien-être général, mais que fondamentalement, sur le plan du comportement, du bonheur de vivre, du plaisir de vivre, je pense que les choses sont extrêmement altérées. Et alors, à la question posée par Luc, d'où vient le pognon ? Ben, ce qu'on a fait, c'est rechercher d'abord, c'est racler les fins de tiroir, les fonds de tiroir, pardon, car dans bon nombre d'institutions de l'État, il y a toujours un peu de réserve. Et deux, on joue aussi sur la capacité d'emprunt, malgré toute la folie que l'on dit, parce que si c'est la crise, ce n'est pas la crise pour tout le monde. S'il manque de l'argent, il ne manque pas de l'argent partout. D'ailleurs, il suffit de lire les revues, les journaux, pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, comme toujours, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Et donc, c'est de cette manière-là que l'État fédéral, avec d'ailleurs dans le cadre de Dexia, les régions ont pu contribuer. Et pourquoi a-t-il contribué ? Et puis je viendrai un mot sur la spéculation. parce que le sentiment véritablement convaincu, et moi je partage ce sentiment, était que si on n'intervenait pas tout de suite avec Fortis et puis avec Dexia, il y aurait eu un effet domino sur l'ensemble des banques belges, au minimum. Pourquoi l'ensemble des banques ? Parce que maintenant, tout le monde se rend compte que on avait beau croire qu'on prenait, par exemple, des actions Dexia Bank, on pensait qu'on avait en face de soi une banque, mais derrière cette banque, il y avait un holding, il y avait des branches. Alors, j'ai dû faire l'effort quand même de comprendre comment étaient structurés tous ces bazars, tantôt Fortis, tantôt Dexia, et pourtant, j'en connaissais quelque chose. Bah, c'est hallucinant de voir les croisements des uns et des autres, et non seulement à l'intérieur d'une institution comme Fortis, mais toutes les institutions financières et d'assurance sont liées entre elles par des prêts quotidiens, par des achats d'actions de toute nature. Et donc, dès qu'on touche ou qu'on accepterait une faillite d'une institution bancaire, l'effet domino était immédiat partout. Ça voulait dire que l'ensemble des épargnants étaient touchés d'une manière directe. Sans compter que l'économie réelle, qui malheureusement dans le monde ne représente que 2,2% de la masse financière, comme je répète ce que je viens de dire, l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie de biens et de services, ne représente que 2,2% de la masse financière utilisée, c'est clair que si on avait laissé faire sur l'économie réelle, en termes de prêts pour les indépendants, de prêts pour les PME, de prêts pour, par exemple, l'achat de maison, c'eût été un véritable cataclysme. Donc, non seulement on aurait eu un effet domino, bancaire et vraisemblablement d'assurance, mais en plus, sur l'économie réelle, au-delà des effets très négatifs que nous connaissons pour l'heure, c'eût été un véritable cataclysme. Donc, le gouvernement n'a pas eu d'autre solution que d'éviter ce scénario. Bon, voilà, on a fait avec deux institutions, on verra s'il n'y a pas lieu d'ailleurs d'aller plus loin. Dernier mot, pour bien mesurer à quel point ce capitalisme débridé est insupportable, c'est qu'on a considéré la spéculation, et je revois d'ailleurs Tony Blair le dire, les spéculateurs faisant partie finalement du système qui permettait de tirer tout le monde vers le haut. Mais deux types de spéculation. Personne ne peut croire que quand un navire éprouve des difficultés, une plateforme qui s'arrête de produire du pétrole ou bien une raffinerie qui connaît un accident, que tout d'un coup, il faut remonter le baril du pétrole de X%. Enfin, je veux dire, n'importe quel esprit un peu convenablement constitué trouve ça des carabistouilles. Mais les carabistouilles sont quand même le fait de la réalité. Ça monte et pourquoi ? Mais parce qu'il y a des spéculateurs qui, comment dirais-je, stockent des quantités de pétrole inimaginables, qui achètent. Par exemple, encore aujourd'hui, il y a des stocks achetés par les spéculateurs, stocks qui sont l'équivalent de la moitié de toute utilisation de la Chine d'aujourd'hui. Entre 2001 et 2005, ils ont stocké autant de pétrole qu'on a utilisé la Chine en même temps. Un autre exemple de folie, pourquoi tout d'un coup le prix des denrées alimentaires se sont envolées? On se demanderait bien pourquoi. Ah, bon, bien sûr qu'il y a une sécheresse par ici, qu'il y a trop d'eau par là, et ça se voit à la télé. Enfin, imaginez que depuis que la Terre est terre et habitée par des êtres humains, qu'il n'y a pas eu de sécheresse et qu'il n'y a pas eu d'inondation, c'est une injure à l'intelligence. Maintenant, on le voit, on croit qu'il n'y a que ça. Mais enfin, il y a toujours eu des sécheresses, il y a toujours eu des inondations, tantôt plus, tantôt moins. Et puis tout d'un coup, tout s'envole. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a des spéculateurs qui stockent le blé. Et par exemple, il y a aujourd'hui dans la spéculation un stockage de blé qui équivaut à 2 années de consommation de tous les Américains. Et en jouant sur un appel énorme du blé à un moment donné, les prix augmentent terriblement pour les autres. Eux, ils ont stocké et puis ils remettent sur le marché en faisant des plus-values hallucinantes. Et je peux continuer comme ça. C'est le monde dans lequel on a vécu parce que, un, il n'y a pas de régulation. Régulation de l'économie est insuffisante. Et il n'y a pas de contrôle du monde financier. Et alors là, je vais dire des choses absolument insupportables pour les oreilles de certains. Ben, il faudrait interdire certaines choses. Moi, je suis rimbaldien, je suis pour la liberté libre, mais la liberté qui conduit à appauvrir, à affamer les gens, bah, je suis contre. Et là, il y a vraiment des choses à faire. Alors, va-t-on y parvenir ? Bah, on espère. Il faut reconnaître que il y a un mouvement de fond, d'abord une prise de conscience. Au niveau européen, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça bouge un peu. Si Obama a été élu en novembre, ça aidera. Bon, voilà. Donc on est quand même dans cette situation terrible, peut-être avec un espoir. Alors, dernière image, c'est celle du 9 novembre 89, quand le mur de Berlin s'est écroulé. Celles et ceux qui, comme moi, ont quelques décennies de vol, se sont rendus sur place. J'appartenais à ces gens qui ne pouvaient pas supporter de rester ici alors que l'histoire se passait là-bas. Bon, on est allé, on était en rire, en pleurs, c'était magnifique. Mais après ça, et c'était vraiment certainement l'un des moments historiques les plus importants depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais après quelques années, qui a triomphé, la gauche ou la droite ? Ben, c'est la droite. Pour mille et une raisons, il faudrait des heures pour l'expliquer. Ici, on est dans un phénomène de même nature, peut-être même un phénomène plus important. Il y a effondrement du système. Mais est-ce parce qu'il y a effondrement du système que les progressistes vont l'emporter ? Ça, rien n'est moins certain. Parce qu'il faut, pour l'emporter, non seulement penser, ça nous sommes souvent capables, avoir une dialectique, discuter, ça alors on est brillantissime pour le débat sans nom sur ce qu'il conviendrait de faire et surtout sur les différences entre la gauche extrême, la gauche moyenne, la social-démocratie, les socialistes et tout ça. Donc nous pourrions en tenir des mois, mais en attendant, les autres agissent. Et je pense que vraiment, plus que jamais, on a un vrai travail de résistance, d'occupation du terrain du pouvoir, et dans cette occupation, essayer de mettre le pied à la porte. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut dire et redire, vous nous avez conduits dans une société qui est insupportable, nous n'en voulons plus, et par tous les moyens, que ce soit les moyens populaires, les associations, le Parlement, les gouvernements, quand c'est possible, on veut véritablement que les choses changent. Mais comme je ne savais pas moi, que je devais parler, on me dit tu viens chez Filigrane, tu viens chez Marc, tu fais quelques autographes. Je trouvais ça plutôt marrant. Ben voilà, puisqu'on m'a obligé de parler, excusez-moi d'en avoir profité. Merci beaucoup.
Voilà. Un tout grand merci d'avoir travaillé une demi-heure un dimanche après-midi. Et donc, on va rester de manière informelle. Si vous voulez poser des questions à Elio Di Rupo, vous le faites auprès de lui quand vous le souhaitez. Donc la session est officiellement terminée. Par contre, je crois que l'auteur peut dédicacer. Oui.